Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur La Locale 97.3 à Saint-Girons, dans l'émission La Fille à la Fenêtre. La Fille à la Fenêtre, en gros, qu'est-ce que c'est l'idée ? L'idée, c'est de revenir vers des autrices qu'on connaît peut-être pas très bien parce qu'on les trouve un peu ennuyeuses ou qui ont écrit il y a longtemps, qui sont un peu moins loin de nous, et pour essayer de montrer ce qu'elles peuvent nous apporter d'un point de vue féministe ou pas, mais aussi pour des choses qui n'ont rien à voir avec le féminisme, et pour essayer de faire un espèce de dessin à partir de toutes ces femmes qui ont écrit dans des conditions difficiles parce qu'elles ont écrit à des époques où les femmes n'étaient pas supposées écrire. Et voilà, donc essayer de dessiner un peu ce tableau-là. Donc le mois dernier, on a été voir un peu du côté des sorcières et de deux femmes qui nous avaient écrit des livres sur les sorcières au 19e et au début du 20e siècle. Pour aujourd'hui, j'ai un peu chamboulé mon programme, je dois dire, parce que y a encore eu un attentat en Europe. Et cet attentat, ce malheureux attentat, a encore donné lieu à de grandes déclarations guerrières de la part de nos dirigeants, dont Manuel Valls, par exemple, qui a encore tonitrué que nous étions en guerre. Et j'entendais encore récemment sur France Inter un auditeur qui disait « Oui, l'État islamique nous a déclaré la guerre ». En fait, techniquement, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'État islamique en août 2014, hein, étant donné qu'il n'y avait pas encore eu d'attentat sur le sol français, donc d'attaque réelle de l'État islamique contre l'État français. Et donc, le problème des temps de guerre, hein, c'est que les femmes sont instrumentalisées, toujours. Aujourd'hui, en 2016, en France, on fait la chasse aux femmes voilées, qu'on diabolise, qu'on interdit d'aller à l'école, qui se font agresser dans la rue et qui subissent un discours médiatique raciste omniprésent. Pour moi, c'est cette histoire de femme voilée et de comment, d'une part, on présente la femme voilée qui serait une femme diabolique, dangereuse, radicalisée, susceptible de soutenir des personnes qui font des attentats ou d'en faire elle-même. C'est un discours qui existe quand même quasiment depuis la fin des années 80. Et pour moi, ce discours-là, il est vraiment partie prenante de la rhétorique guerrière. Et donc, c'est un discours extrêmement grave contre lequel il faut se battre. Et d'autant plus en tant que féministe, parce qu'il y a énormément de féministes, malheureusement, enfin de prétendus féministes qui stigmatisent les femmes voilées. Et qu'en fait, le problème, c'est que d'un côté, on élève cette figure de femme voilée, et de l'autre côté, on élève une figure de femme française, qui serait une femme libérée à 100%, une femme émancipée. Et c'est un peu comme deux versants d'une même médaille, quoi. D'un côté, il y a cette femme absolument soumise, absolument pas libre, que serait la femme voilée, alors qu'en fait, je n'aime pas parler à leur place, mais je sais qu'il y a énormément de femmes voilées qui portent le voile de leur propre chef. Et d'un autre côté, il y aurait cette femme française libre, absolument émancipée, qui n'a absolument aucun problème. Et cette ambivalence permet de renforcer une société patriarcale qui continue à invisibiliser les violences faites aux femmes et qui continue à être une société sexiste. Il vaut mieux regarder chez soi plutôt que de critiquer le voisin en permanence et de prétendre aller faire la guerre pour libérer des femmes qui ne s'en trouvent absolument pas libérées. On pourrait penser à l'Afghanistan ou à l'Irak, par exemple. Les invasions occidentales de ces pays n'ont absolument pas amélioré la condition des femmes, par exemple. Bon. Dans cette émission, l'idée, c'est d'essayer de chercher des fils dans le passé, dans la littérature, pour nous donner matière à penser et à découvrir des autrices qu'on avait peut-être un peu oubliées. Et en fait, on s'appelle aussi La Fille à la Fenêtre parce que les femmes étaient et sont encore beaucoup de simples spectatrices d'un monde d'hommes. Aujourd'hui, pour réaffirmer ce positionnement, cette volonté d'être contre la guerre, on va aller voir du côté de Virginia Woolf. Ça peut paraître un peu étonnant peut-être comme ça. Virginia Woolf, qui est connue pour être une autrice très intello, qu'on trouve un peu dans toutes les librairies, qui a écrit des romans qui sont souvent très compliqué à lire et que je conseillerais pas forcément. On ne sait pas ce que Virginia Woolf elle aurait pensé de l'État islamique, mais en tout cas, Virginia Woolf, en 1938, elle a écrit un livre, un essai qui s'appelle « Trois Guinées ». ces trois lettres en fait qui sont réunies en un seul essai pour répondre de trois manières différentes à la demande d'un homme qui lui demande d'aider à financer une société, donc une association contre la guerre. Et donc Virginia Woolf, elle prend sa plume pour lui répondre en trois lettres. Donc elle va se poser la question de comment empêcher la guerre. Et par ce biais-là, elle va parler de l'éducation des femmes. Donc on n'oublie pas qu'elle parle en 1938, et en plus comme elle est née en 1882, bon, elle parle d'un endroit où le statut des femmes a certes beaucoup changé, mais encore extrêmement compliqué. Donc elle va parler de l'éducation des femmes, elle va parler des femmes au travail et du rôle que pourraient jouer les femmes pour préserver la liberté intellectuelle. Tout ça, elle va le dire toujours dans cette visée qui serait de comment est-ce qu'on peut empêcher la guerre. Et en fait, dans ses lettres, elle va refuser par trois fois à cet homme de lui donner une guinée. Parce que bon, elle dit « je n'ai pas beaucoup d'argent, tout ce que je peux vous donner c'est une guinée à chaque fois, pour chaque chose dont vous me parlez. Mais en fait, à chaque fois, je ne vais pas vous la donner, je vais plutôt la donner à une association de femmes » parce qu'elles n'ont absolument aucun moyen financier pour faire ce qu'elles essayent de faire. C'est un essai féministe et c'est un essai contre la guerre. Et donc en ces temps de guerre, en ces temps de réappropriation permanente du corps des femmes pour faire la guerre, eh bien, ça me semblait important de retourner un peu en arrière pour voir ce que pourrait nous dire une personne qui est certes morte en 1941, mais qui a vécu deux guerres, et qui sait un peu de quoi elle parle. Donc Virginia Woolf, elle est anglaise, elle vient de ce qu'on appelle la bonne société, donc terme abominable qui sous-entendrait qu'il y aurait une bonne et une mauvaise société, donc la bonne étant les riches et la mauvaise étant les pauvres. Donc elle vient d'une famille bourgeoise. Elle a révolutionné la littérature du début du XXe siècle avec ses romans, qu'on nous dit souvent. Bon, il y a Mrs. Dalloway, il y a Orlando parmi les plus connus. Mais nous, comme on le disait tout à l'heure, enfin nous, ça y est, je parle au... Donc moi, j'ai plus de reconnaissance envers Virginia Woolf pour ses essais que pour ses romans. Donc elle a écrit notamment Une chambre à soi, qui est un magnifique texte sur la place des femmes qui écrivent, sur nos fameuses autrices, qu'elles soient oubliées ou pas. Et elle sait vraiment ce qu'elle doit à celles qui l'ont précédée. Elle sait ce qu'elle doit à Jane Austen, par exemple, qui est une grande romancière du début du XIXe siècle, dont on aura l'occasion de reparler. Elle sait ce qu'elle doit à Afra Behn, qui est la première femme anglaise à avoir vécu de sa plume au XVIIe siècle. Virginia Woolf disait d'elle que toute autrice devrait aller se recueillir sur sa tombe. Alors moi, j'ai lu Afra Behn. Bon, elle est quand même très très loin de nous, parce que c'est le XVIIe siècle et on a un peu du mal à en tirer des trucs pour avancer aujourd'hui. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Voilà, Virginia Woolf, elle s'est suicidée le 28 mars 1941, après avoir passé sa vie à écrire, à lire et à écrire sur la lecture et l'écriture, et après avoir fait de nombreuses dépressions. Et en fait, elle s'est jetée dans une rivière à côté de Brighton. Et son mari l'avait emmenée là-bas en espérant qu'elle aille mieux. Toutes les personnes qui ont travaillé sur son œuvre disent qu'elle s'est suicidée à cause de ses problèmes psychologiques. Mais moi, j'ai aussi envie de penser qu'elle s'est suicidée à un moment où la guerre contre l'Allemagne semblait perdue. On se retrouvait dans une position difficile parce que l'Angleterre risquait d'être envahie à tout moment. C'était ce qu'ils pensaient à cette époque-là, en 1941, que l'Angleterre allait être envahie par l'Allemagne nazie. Et qu'en fait, malgré ce qu'elle nous a dit dans Trois Guinées, comme on va le voir après, et ben, elle se retrouvait dans une situation où il fallait quand même qu'elle prenne parti, parce qu'elle préférait voir le ciel de Londres illuminé par des flashs électriques toute la nuit pour qu'ils puissent voir les bombardiers allemands qui les bombardaient absolument toutes les nuits depuis 6 mois. Donc voilà, elle était dans une position vraiment désagréable. Et elle s'est donnée la mort, ne voyant plus d'issue en fait. Bon, après, on est loin d'être elle, donc on va pas parler à sa place. Donc on va l'écouter un peu. Je vais juste lire, pour commencer, le début de ce livre qui s'appelle Trois Guinées, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans plusieurs éditions. Vous pouvez le trouver en 10-18, vous pouvez le trouver aux éditions des femmes. Et là, l'édition que j'ai, c'est une maison d'édition pas très connue qui s'appelle Blackjack Édition. Donc c'est une traduction par Léa Gauthier. Trois années. C'est une bien longue période pour ne pas répondre à une lettre. Et votre lettre est restée sans réponse plus longtemps encore. J'avais espéré que la réponse viendrait d'elle-même, ou que d'autres se chargeraient de la donner pour moi. Mais votre lettre est là, avec sa question, toujours sans réponse. Comment, selon vous, pouvons-nous empêcher la guerre ? Il est vrai que de nombreuses idées me sont venues à l'esprit, mais aucune qui ne nécessiterait pas d'explication. Et les explications prennent du temps. Dans ce cas, il y a des raisons pour lesquelles il est particulièrement difficile d'éviter un malentendu. Je pourrais couvrir une page entière d'excuses et de regrets, de déclarations d'incompétence et d'inaptitude, de manque d'information ou d'expérience. Et ce serait vrai. Mais alors même que ces mots eussent été écrits, il subsisterait des difficultés si fondamentales qu'il vous serait impossible de les comprendre et qu'il nous serait impossible de les expliquer. Cependant, comment peut-on laisser sans réponse une lettre aussi remarquable que la vôtre ? Une lettre peut être unique dans les annales de la correspondance. En effet, un homme éduqué a-t-il jamais demandé à une femme comment empêcher la guerre ? Je vais donc tenter l'exercice, même si je le sais voué à l'échec. Traçons pour commencer ce que tout auteur d'une correspondance fait par instinct. Une esquisse de la personne à laquelle la lettre est adressée. Les lettres ne valent rien sans quelqu'un de chaud, de vivant, de l'autre côté de la page. Vous donc, qui me posez cette question, vous avez les tempes grisonnantes. Votre chevelure n'est plus très dense sur le sommet du crâne. Vous avez passé la moitié de votre vie au barreau, non sans effort. Mais votre parcours fut plutôt prospère. Il n'y a rien de mesquin, de desséché, ni d'insatisfait dans votre expression. Et sans vouloir vous flatter, cette prospérité, une femme, des enfants, une maison, vous l'avez méritée. Vous n'avez jamais sombré dans l'apathie suffisante des hommes mûrs, car, comme votre lettre postée d'un bureau du centre de Londres en témoigne, au lieu de dormir sur vos deux oreilles, de garder vos moutons et de tailler vos poiriers, vous possédez quelques prés dans le Norfolk. Vous écrivez des lettres, participez à des meetings, présidez des comités, ici ou là, et vous vous posez des questions alors que résonne le son des canons. Pour le reste, vous avez commencé votre éducation dans une grande école et vous l'avez achevée à l'université. Et voici qu'apparaît entre nous une première difficulté de communication. Laissez-moi vous en donner rapidement la raison. Dans ces temps hybrides où, si la question de la naissance est vacillante, les classes demeurent fixes, nous sommes tous deux issus de ce qu'on appelle la classe des gens éduqués. Quand nous nous rencontrons en chair et en os, nous parlons avec le même accent, nous utilisons notre couteau et notre fourchette de la même manière, des domestiques cuisinent nos repas et font notre vaisselle, et pendant notre dîner, nous pouvons parler sans trop de difficultés de gens et de politique, de guerre et de paix, de barbarie et de civilisation. En fait, de toutes ces questions que suggère votre lettre. De plus, nous gagnons tous deux notre vie, mais... Et ces points de suspension marquent un précipice, un gouffre si profondément creusé entre nous que durant ces 3 années et même plus, je suis restée assise là, de mon côté, à me demander s'il valait la peine d'essayer de parler au-dessus de ce vide. Demandons alors à quelqu'un d'autre, il s'agit de Mary Kingsley, de parler pour nous. Je ne sais pas si je vous ai jamais révélé qu'être autorisée à apprendre l'allemand a été la seule éducation payée à laquelle j'ai eu droit. 2000 livres ont été dépensés pour l'éducation de mon frère, et j'espère toujours que ce ne fut pas en vain. Mary Kingsley ne parle pas pour elle seule. Elle parle aussi au nom de beaucoup de filles d'hommes éduqués. Et elle ne parle pas seulement pour elle, elle dénonce une réalité très importante qui les concerne, une réalité qui doit profondément influencer tout ce qui suit dans cette lettre. La réalité du fonds pour l'éducation d'Arthur. Vous qui avez lu Peine d'Ennis, il s'agit d'un roman de William Sacre, un auteur anglais du XIXe siècle. Vous vous souviendrez des lettres mystérieuses, F.E.A., qui figurent sur les livres de comptes de la maison. Depuis le XIIIe siècle, des familles anglaises ont versé de l'argent sur ce compte. Du XIIIe siècle à aujourd'hui, toutes les familles éduquées ont versé de l'argent sur ce compte. C'était un fonds glouton. Les familles qui avaient de nombreux fils à éduquer ne devaient pas ménager leurs efforts pour qu'ils restent remplis. En effet, votre éducation ne se résumait pas à l'étude livresque. Des jeux éduquaient votre corps, des amis vous apprenaient davantage que les livres et les jeux. Ces échanges élargissaient votre esprit, enrichissaient vos pensées. Pendant les vacances, vous voyagiez, vous aiguisiez votre goût pour l'art, vous cultiviez votre connaissance des politiques étrangères. Et en attendant que vous puissiez gagner votre vie, votre père vous versait une pension, grâce à laquelle vous alliez pouvoir vivre alors que vous appreniez la profession qui maintenant vous permet de faire suivre votre nom des initiales KC. C'est un titre honorifique. Tout cela provenait du fonds pour l'éducation d'Arthur, auquel vos sœurs, comme le dit Mary Kingsley, ont contribué. Leur éducation y fut sacrifiée, si l'on excepte les sommes infimes payées aux professeurs d'allemand. Comme le furent également tous ces luxes et agréments superflus qui représentent, après tout, une part essentielle de l'éducation. Les voyages, la vie en société, la solitude, une chambre à soi dans la maison familiale. C'était un fonds glouton, une réalité concrète, le fonds pour l'éducation d'Arthur. une réalité si concrète que son ombre s'est étendue sur tout un paysage. Et il en résulte que même si nous regardons les mêmes choses, nous les voyons différemment. Qu'est-ce que cet ensemble de bâtiments là-bas, à l'allure semi-monastique, avec des chapelles, des résidences et des terrains de jeu verdoyants ? Pour vous, il s'agit de votre vieille école, Eton ou Harrow, de votre vieille université, Oxford ou Cambridge, la source de souvenirs et de traditions immémorables. Mais pour nous, qui les voyons à travers l'ombre du fonds pour l'éducation d'Arthur, il s'agit d'une table dans une classe, d'un omnibus nous conduisant à cette classe, d'une petite femme au nez rouge, qui n'avait elle-même pas grande éducation, mais qui avait une mère invalide à charge. Il s'agit d'une pension de 50 livres par an, avec lesquelles il fallait acheter des vêtements, offrir des cadeaux, et parcourir les étapes menant à la maturité. Tel est l'effet que le fonds pour l'éducation d'Arthur a eu sur nous. Un effet si magique, qui transforme le paysage, et que les nobles cours et les cloîtres d'Oxford et Cambridge prennent, pour les filles des hommes éduqués, les allures de jupons troués, de côtelettes de mouton froides et d'un ferry partant pour l'étranger, alors qu'un gardien leur claque la porte au nez. La réalité selon laquelle le fonds pour l'éducation d'Arthur transforme le paysage, les résidences, les terrains de jeu, les édifices sacrés, est à prendre en considération. Mais nous devons réserver ce sujet pour une discussion ultérieure. Ici, nous ne retiendrons qu'un fait évident. Face à cette question capitale, comment pouvons-nous empêcher la guerre ? L'éducation constitue une différence. Quelques connaissances en matière de politique, de relations internationales, d'économie sont évidemment nécessaires pour comprendre les causes de la guerre. La philosophie, la théologie même peuvent se révéler utiles. Mais vous, l'inculte, vous, l'esprit peu entraîné, vous ne pourrez pas envisager ces questions de manière satisfaisante. La guerre, entendue comme résultat de forces impersonnelles, n'est pas à la portée d'un esprit non éduqué, vous en conviendrez. Quant à la guerre, entendue comme une conséquence de la nature humaine, c'est autre chose. Si vous n'aviez pas cru que la nature humaine, la raison et les émotions de l'homme et de la femme ordinaire jouaient sur les raisons conduisant à la guerre, vous n'auriez pas écrit pour nous demander de l'aide. Vous avez dû vous dire que les hommes et les femmes, ici et maintenant, sont capables d'exercer leur volonté, qu'ils ne sont pas des pions, des marionnettes dansant au bout de ficelles manipulées par des mains invisibles. Ils peuvent agir et penser par eux-mêmes. Peut-être même peuvent-ils influencer les pensées et les actions d'autres personnes. N'est-ce pas un tel raisonnement qui vous a poussé à vous adresser à nous ? Et c'est justifié. Il existe par bonheur une branche de l'éducation inscrite au chapitre « Éducation gratuite » qui apprend à comprendre les êtres humains et leurs motivations. On pourrait l'appeler « psychologie » si l'on retire à ce mot toute connotation scientifique. Le mariage, seule grande carrière ouverte à notre classe depuis le début des temps jusqu'à 1919. Le mariage, cet art de choisir l'être humain auprès duquel on pourra vivre avec succès, a dû nous conférer quelque expérience en la matière. Mais ici encore, nous sommes confrontés à une autre difficulté. Si bien des instincts sont communs aux hommes et aux femmes, l'instinct de combat est l'apanage des hommes, non celui des femmes. La loi, la pratique ont encouragé cette différence, qu'elle soit innée ou accidentelle. Il est rare au cours de l'histoire qu'un être humain ait été tué par les balles d'un fusil tenu par une femme. La grande majorité des oiseaux, des animaux, ont été tués par vous, non par nous. Freedom, item, meet 'em, where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Work people, what's up with that? Work people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Queen, what's up with
kick them. This is north, south, east, and western. Yeah, guns, blood, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east, and western. We represent the peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool, and this is how we do.
Vous êtes de retour sur La Locale 97.3 à Saint-Girons dans l'émission La Fille à la Fenêtre. Donc, je vous ai lu un premier extrait du livre Trois Guinées de Virginia Woolf. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas trop où est-ce que je veux en venir avec tout ça. Elle pose le cadre de son essai. Elle dit qu'elle répond donc à une lettre de ce qu'elle appelle un homme éduqué. Donc, on peut comprendre par un bourgeois, hein, tout simplement. Parce que les autres, ils travaillent, ils n'ont pas le temps d'aller à l'école, n'est-ce pas, malheureusement. Elle lui explique la différence entre les hommes et les femmes de la classe bourgeoise. C'est-à-dire que depuis, elle parle du XIIIe siècle, mais ce qui, qui marque peut-être quelque chose dans l'histoire anglaise que nous ne voyons pas. Depuis extrêmement longtemps, l'aristocratie anglaise, la bourgeoisie anglaise ensuite, a dépensé absolument tous ses moyens pour l'éducation des hommes, tout en n'en consacrant absolument aucun pour l'éducation des femmes. Alors on pourrait se demander quel rapport avec la guerre, toute cette histoire. Moi je vais juste vous lire un petit extrait qui explique pourquoi elle parle des femmes bourgeoises en fait. En fait elle s'adresse à sa classe. L'idée de cet essai c'est vraiment de s'adresser aux femmes de sa classe et de leur donner des conseils contre la guerre. Pour exprimer notre conviction que la guerre est barbare, qu'elle est inhumaine, qu'elle est, comme Wilfred Owen l'écrivait, intolérable, horrible, bestiale, une méthode plus active, plus énergique, nous semble indispensable. Mais, rhétorique mise à part, de quelle méthode active disposons-nous ? Réfléchissons et comparons. Vous, bien entendu, vous pourriez prendre les armes en Espagne, comme vous l'avez fait en France auparavant pour défendre la paix. Mais c'est là une méthode que vous avez rejetée après l'avoir éprouvée. De toute façon, cette méthode ne nous est pas offerte. L'armée comme la marine nous sont fermées. Il ne nous est pas permis de nous battre. Nous ne pouvons pas non plus travailler à la bourse. Nous ne pouvons donc faire pression ni par la force ni par l'argent. Quant aux armes moins directes, mais tout de même efficaces, qu'ont utilisées nos frères, hommes éduqués, en entrant dans le service diplomatique ou dans les ordres, elles nous ont aussi été refusées. Nous ne pouvons ni prêcher de sermons, ni négocier de traités. Il est vrai que nous pouvons toujours écrire des articles ou envoyer des lettres à la presse. Mais le contrôle de la presse, la décision de publier ou non, est entièrement aux mains de votre sexe. Il est vrai que depuis 20 ans, nous pouvons être fonctionnaires et membres du barreau, mais notre position reste très précaire et notre autorité des plus inconsistantes. Ainsi, toutes les armes grâce auxquelles un homme éduqué peut imposer ses opinions sont pour nous hors de portée, ou si près de l'être, qu'elles nous serviraient à peine à égratigner. Si les hommes de votre profession étaient unis derrière n'importe quelle revendication et déclaraient « si nous n'obtenons pas satisfaction, nous cesserons de travailler. La justice anglaise ne pourrait plus fonctionner. » Si les femmes de votre profession faisaient de même, l'application des lois en Angleterre ne serait en rien troublée. Mais nous ne sommes pas incomparablement plus faibles que les hommes de notre propre classe. Nous sommes aussi plus faibles que les femmes de la classe ouvrière. Si les ouvrières de notre pays déclaraient « Si vous entrez en guerre, nous refuserons de fabriquer des munitions ou d'aider à la production », les difficultés liées à la guerre augmenteraient sérieusement. Si toutes les filles d'hommes éduqués se mettaient en grève, rien de la vie de la communauté ou de la conduite de la guerre ne serait changé. Notre classe est la plus faible de toutes. Nous n'avons pas d'armes pour imposer notre volonté. » Sur cette histoire de « Notre classe est la plus faible de toutes », elle ajoute une petite note, parce que dans cet essai, elle fait énormément de petites notes qui sont souvent assez drôles d'ailleurs. Donc la petite note concernant ça, c'est « Il existe bien sûr une chose essentielle que peut produire la femme éduquée, des enfants. Et elle peut tout à fait aider à empêcher la guerre en refusant de porter des enfants. Ainsi, Miss Helena Normanton est d'avis que la seule chose que les femmes peuvent faire dans tous les pays pour empêcher la guerre est d'arrêter de fournir de la chair à canon. » Des lettres envoyées aux journaux manifestent fréquemment cette opinion. Je peux raconter à M. Harry Campbell pourquoi, en ce moment, les femmes refusent d'avoir des enfants. Lorsque les hommes auront appris à gouverner leur pays de façon à ce que les guerres ne frappent que les coupables et non les innocents, alors peut-être les femmes auront-elles de nouveau envie d'avoir de grandes familles. Mais pourquoi les femmes devraient-elles donner vie à des enfants dans le monde tel qu'il est aujourd'hui ? Le fait que la natalité chute dans la classe des femmes éduquées montre qu'elles suivent le conseil de Miss Normanton. Il leur avait été donné, voici 2000 ans, par Lysistrata, en des circonstances similaires. Bon, là, on est un peu dépourvu parce qu'on a oublié de regarder qui était cette Lysistrata. Il doit s'agir d'une figure littéraire, peut-être de l'Antiquité gréco-romaine, probablement. Donc, Virginia Woolf, ici, elle parle d'une période où les femmes bourgeoises n'ont effectivement quasiment aucun pouvoir. Alors, effectivement, c'est absolument pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des femmes telles que Angela Merkel, Christine Lagarde, ou d'autres personnes déplaisantes, qui exercent un pouvoir similaire à des hommes, dans ce monde, et qui, en fait, pour moi, sont des hommes, en fait. Elles ne sont même plus des femmes. Elle parle d'une période où les femmes bourgeoises n'ont effectivement aucun pouvoir, si ce n'est celui de faire des enfants. Et leur seul moyen de pression serait de ne pas en faire, par exemple. Ou de ne pas s'impliquer dans la moindre société soutenant l'effort de guerre. Donc là, on comprend un peu mieux où est-ce qu'elle veut en venir. C'est-à-dire, elle s'adresse aux femmes de sa classe en disant quels sont les moyens qu'on a pour empêcher la guerre. Et en même temps, elle en profite pour faire un panorama de la situation des femmes dans la société qui est extrêmement acerbe et très très efficace. Elle veut montrer aux femmes aussi qu'elle pourrait former une communauté de sort, qu'elle pourrait se parler les unes les autres, faire ensemble des associations pour avoir plus de moyens, pour s'éduquer, pour travailler, etc. Et de pratiquer soit le refus, alors le refus d'enfanter, ou alors le refus de soutenir l'effort de guerre de quelconque manière. À certains moments, elle dit qu'il faut même refuser de repriser des chaussettes. Soit de pratiquer l'indifférence face aux velléités guerrières de leurs frères. Donc en fait, moi je veux pas voir ça comme un refus de s'allier avec les femmes prolétaires, mais plutôt comme une manière de fédérer entre femmes bourgeoises, de se fédérer comme des femmes utilisées comme alibi par des hommes de pouvoir. Une manière de dire pas en notre nom, entre personnes de la même condition. Mais voyons encore quelques arguments qu'elle utilise pour ne pas céder à des instrumentalisations idéologiques pour faire la guerre. Et ça va nous rapprocher un peu plus d'aujourd'hui. Nous essayons, souvenez-vous, de découvrir quelle saveur s'attache au sexe dans l'univers des bureaux. Nous flairons délicatement des odeurs, non des faits. Il vaudrait alors peut-être mieux ne pas nous référer à nos propres narines, mais chercher une évidence à l'extérieur. Afin de trancher la difficile et délicate question de l'arôme, de l'atmosphère qui entoure le terme « miss » dans le quartier de Whitehall, tournons-nous vers la presse et regardons si nous ne pouvons pas découvrir, au travers des opinions qui sont dans l'air, quelques traces qui nous guideraient. Nous consulterons donc les quotidiens. D'abord, je pense que votre correspondant résume correctement la discussion en observant que la femme a bien trop de liberté. Il est probable que cette liberté soit venue avec la guerre. Ils doivent parler de la Première Guerre mondiale. Lorsque les femmes ont assumé des responsabilités qui leur étaient jusqu'alors inconnues. Elles firent un splendide travail en ces temps-là. Malheureusement, elles furent félicitées, encensées hors de toute proportion, pour la valeur de leur performance. C'est un excellent début, Mais continuons. Nouvelle citation. À mon avis, la somme considérable de détresse qui prévaut dans ce secteur de la communauté, le clergé, pourrait être soulagée si la politique consistant à employer des hommes plutôt que des femmes était adoptée partout où cela est possible. Il y a aujourd'hui dans les bureaux gouvernementaux, les bureaux de poste, les compagnies d'assurance, les banques et d'autres bureaux encore, des milliers de femmes qui font le travail que des hommes pourraient faire. En même temps, il y a des milliers d'hommes qualifiés, jeunes ou d'âge mûr, qui ne trouvent aucun travail d'aucune sorte. Il y a beaucoup d'offres d'emploi pour les femmes dans le domaine des arts ménagers, et en reclassant un grand nombre de femmes qui se sont glissées dans des carrières cléricales, on pourrait les rendre de nouveau disponibles aux travaux domestiques. L'odeur se fait plus perceptible, vous en conviendrez. Et encore, une nouvelle citation. Je suis certain d'être le porte-parole de milliers de jeunes hommes lorsque je dis que si des hommes accomplissaient le travail que des milliers de jeunes femmes font aujourd'hui, ces hommes seraient alors capables d'entretenir ces mêmes femmes dans des foyers décents. La maison est la place des femmes, ces femmes qui acculent aujourd'hui les hommes à l'oisiveté. Il est temps pour le gouvernement d'insister afin que les employeurs donnent davantage de travail aux hommes, afin qu'ils soient capables de se marier avec les femmes, qu'ils ne peuvent maintenant approcher. Ça y est, nous flairons l'odeur. Après avoir considéré l'évidence contenue dans ces trois citations, vous admettrez qu'il y a de bonnes raisons de penser que le terme « Miss », aussi délicieux que puisse être son parfum à la maison, véhicule dans les couloirs de Whitehall une odeur bien désagréable. Et c'est précisément la raison pour laquelle le nom auquel est adjoint le terme « Miss » tournera toujours dans les plus basses sphères, où les salaires sont faibles, plutôt que de gravir les plus hautes sphères, où les salaires sont substantiels. Comme « Madame », c'est un mot contaminé, un mot obscène. Moins on en dira de ce mot, mieux ce sera. L'odeur est telle, ce mot empeste tellement pour les narines de ceux de Whitehall, que ceux-ci préfèrent carrément l'exclure. À Whitehall, comme au paradis, on ne se marie pas plus qu'on ne donne en mariage. L'odeur, ou devrions-nous l'appeler atmosphère, est donc un élément très important dans la vie professionnelle. Malgré le fait que, comme d'autres éléments d'importance, elle soit impalpable, elle peut échapper au nez des examinateurs dans les salles d'examen, mais elle pénètre dans les directions et les commissions. Elle affecte les sens de ceux qui les composent. Son impact est incontestable. Il nous autorise à décider, dans l'affaire Baldwin contre Whittaker, que les deux, le Premier ministre comme l'almanach, ont raison. Il est vrai que dans l'administration, les femmes méritent d'être autant payées que les hommes, mais il est aussi vrai qu'elles ne sont pas payées autant que les hommes. La raison de cette contradiction est l'atmosphère. L'atmosphère a une puissance redoutable. L'atmosphère ne change pas seulement les proportions et les formes des choses. Elle affecte aussi des éléments, comme les salaires, que l'on eût cru imperméables à celle-ci. Un poème épique ou un roman de 10 ou 15 volumes devrait être écrit sur l'atmosphère. Mais nous ne faisons qu'écrire une lettre, et nous sommes pressés par le temps. Contentons-nous de constater que l'atmosphère est l'une des plus grandes puissances, en partie parce qu'elle est impalpable, avec lesquelles les filles d'hommes éduqués doivent se battre. Si vous pensez que ce constat est exagéré, regardez encore une fois les échantillons contenus dans les trois citations. Nous trouverons là non seulement la raison pour laquelle le salaire des femmes qui travaillent est si faible, mais aussi quelque chose de plus dangereux, quelque chose qui, diffusé, empoisonnerait également les deux sexes. Ici, à travers ces citations, se trouve l'œuf du même ver que nous retrouvons sous d'autres noms dans d'autres pays. Ici, nous avons l'embryon de la créature, du dictateur, ainsi que nous l'appelons lorsqu'il est italien ou allemand, qui croit qu'il a le droit donné par Dieu, la nature, le sexe ou la race, de dicter aux autres êtres humains la manière selon laquelle ils doivent vivre. Autorisez-nous à citer de nouveau. La maison est la place des femmes, ces femmes qui acculent aujourd'hui les hommes à l'oisiveté. Il est temps pour le gouvernement d'insister afin que les employeurs donnent davantage de travail aux hommes, afin qu'ils soient capables de se marier avec les femmes qu'ils ne peuvent maintenant approcher. Plaçons à côté d'elle une autre citation. Il y a deux mondes dans la vie de la nation, le monde des hommes et le monde des femmes. La nature a bien fait de confier à l'homme l'entretien de sa famille et de la nation. Le monde de la femme est celui de sa famille, de son mari, de ses enfants et de sa maison. L'une de ces citations est écrite en anglais, l'autre en allemand. Mais où est la différence? Ne disent-elles pas toutes deux la même chose? Ne sont-elles pas prononcées toutes deux par la bouche de dictateurs, qu'ils parlent anglais ou bien allemand? Ne convenons-nous pas qu'un dictateur, lorsque nous en voyons un dans les environs, est aussi dangereux qu'un horrible animal? Or, il est là, parmi nous, dressant son horrible tête, répandant son poison. Il est encore petit, replié comme une chenille sur une feuille. Mais il est au cœur de l'Angleterre. N'est-ce pas de cet œuf que surgira, pour reprendre encore les propos de M. Wells, la destruction pratique de notre liberté par les fascistes et les nazis ? Et la femme qui respire ce poison, qui combat cet animal, secrètement et sans armes dans son bureau, ne combat-elle pas aussi sûrement les fascistes et les nazis que ceux qui les combattent avec des armes sous les projecteurs ? Ce combat ne devrait-il pas également épuiser ses forces et fatiguer son esprit ? Ne devrions-nous pas l'aider à écraser l'animal dans notre propre pays avant de lui demander de nous vous aider à l'écraser ailleurs ? Quel droit avons-nous, monsieur, de claironner nos idéaux de liberté et de justice à d'autres pays si nous n'arrivons pas à exterminer de tels œufs logés tous les jours dans les pages de nos plus respectables journaux ? Cette dernière phrase, pour moi, elle nous donne vraiment matière à réfléchir pour ce qui se passe en ce moment. Je vais la relire. Quel droit avons-nous, monsieur, de claironner nos idéaux de liberté et de justice à d'autres pays si nous n'arrivons pas à exterminer de tels œufs logés tous les jours dans les pages de nos plus respectables journaux ? Eh bien, moi, ça me fait penser à la propagande raciste, à la propagande pseudo-féministe que on subit quotidiennement depuis des années et des années, contre les musulmans notamment, et que cette propagande a servi à justifier des guerres qui sont des guerres qui servent aux intérêts géostratégiques et souvent incompréhensibles des puissants ou aux intérêts de grandes compagnies pétrolières ou de minerais ou autre chose. Là, Virginia Woolf nous parle en 1938 de la situation des femmes anglaises qui peinent à travailler comme les hommes. Maintenant, la situation a quand même changé, même si c'est toujours un peu compliqué. Mais ce qu'elle nous dit là est furieusement d'actualité et on peut vraiment l'utiliser pour réfléchir à ce qui se passe en ce moment. J'ai oublié d'annoncer la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. C'est une chanson qui s'appelle Borders de Mia, qui est une chanteuse anglaise. Et je vous conseille vraiment de regarder le clip parce que c'est un clip complètement fou. Et c'est une chanson qui parle des réfugiés, qui est vraiment une défense... des migrants, je ne devrais pas utiliser le mot réfugié, parce que les médias nous en battent les oreilles en ce moment, mais en fait, ce sont simplement des personnes qui se déplacent pour aller vivre ailleurs pour X raisons, et qu'on veut trier en différentes catégories de migrants économiques ou réfugiés, etc. Et donc, c'est une chanson en leur honneur, et c'est vraiment une belle chanson. Et je vous conseille vraiment de regarder le clip. Maintenant, on va écouter une chanson qui est beaucoup plus vieille, qui date des années 60, et qui est chantée par Myriam Makeba, une chanteuse sud-africaine qui a vécu aux États-Unis et qui a participé à la lutte pour les droits civiques aussi dans les années 60. Ça s'appelle « We Got to Make It ».
Someday we will find the answer to this jigsaw puzzle that we've been trying to put together. Believe me, people, when I say the pieces we've been trying to find will turn up if we could only get our heads together. Nobody's gonna get this ship right. More sweeter. Yeah.
Vous êtes de retour sur la locale 97.3 à Saint-Giron. On va lire un dernier extrait de ce livre, Trois Guinées, écrit par Virginia Woolf, dont je vous conseille vraiment la lecture. C'est l'extrait le plus fort, selon moi. On est dans la dernière partie du livre. Elle lui a déjà expliqué à l'homme éduqué à qui elle parle pourquoi elle ne va pas le rejoindre, pourquoi elle va former une société de femmes et préfère soutenir les femmes plutôt que le soutenir lui. Il nous semble à la fois rationnellement faux et émotionnellement impossible de remplir votre formulaire et de rejoindre votre société. Car si nous le faisions, nous fusionnerons notre identité à la vôtre. Nous suivrions, nous répéterions. Nous creuserions encore, plus profondément, les vieux sillons usés dans lesquels la société, comme un gramophone dont l'aiguille est bloquée, en arrive à ressasser cette intolérable unanimité. 300 millions dépensés pour l'armement. Nous ne devrions pas donner caution à une vision que notre propre expérience de la société devrait nous avoir aidé à imaginer. Ainsi, monsieur, alors que nous vous respectons en tant que personne privée et que nous le prouvons en vous donnant une Guinée à dépenser à votre guise, nous considérons que nous vous aiderons plus efficacement en refusant de rejoindre votre société, en travaillant à des fins communes, la justice, l'égalité et la liberté pour tous les hommes et toutes les femmes, non à l'intérieur mais en dehors de votre société. Tout cela, direz-vous, si cela signifie quelque chose, peut seulement signifier que vous, les filles des hommes éduqués, qui nous avez promis une aide positive, refusez de rejoindre notre société afin d'en créer une autre, de votre côté. Et quel type de société proposez-vous de fonder à l'extérieur de la nôtre, toutefois en coopération avec elle, de telle façon que nous puissions travailler ensemble à nos fins communes ? C'est une question que vous avez tous les droits de poser, et à laquelle nous devons essayer de répondre afin de justifier notre refus de signer le formulaire que vous nous avez envoyé. Traçons donc rapidement les grandes lignes de ce genre de société que les filles d'hommes éduqués pourraient fonder et rejoindre à l'extérieur de votre propre société, toutefois en coopération quant à ses fins. D'abord, cette nouvelle société, et vous serez ravis de l'apprendre, n'aura pas de trésorière honoraire, car elle n'aura pas besoin de fonds. Elle n'aura aucun bureau, aucun comité, aucun secrétaire. Elle n'appellera à aucun rassemblement. Elle n'organisera aucune conférence. Si elle doit avoir un nom, nous pourrions l'appeler la Société des Outsiders. Ce n'est pas un nom qui sonne très bien, mais il a l'avantage de cadrer avec les faits. Les faits de l'histoire, de la loi, des biographies. Peut-être même avec les faits toujours cachés de notre psychologie toujours inconnue. Cela consisterait à ce que les filles des hommes éduqués travaillent dans leur propre classe. Comment, de toute façon, pourraient-elles travailler dans aucune autre ? En suivant leur propre méthode, pour la liberté, l'égalité et la paix. Leur premier devoir, auquel elles ne seraient elles-mêmes pas liées par serment, car les serments et les cérémonies n'ont aucune place dans notre société, qui se doit d'être anonyme et plastique avant tout, serait de ne pas se battre avec des armes. Ce qui ne leur sera pas bien difficile, puisque, les journaux nous l'apprennent, le Conseil de l'armée n'a aucune intention d'ouvrir le recrutement pour constituer un régiment de femmes. Le pays nous offre donc cette garantie. Ensuite, elles devraient refuser, en cas de guerre, de fabriquer des munitions ou de soigner les blessés. Pendant la dernière guerre, ces deux activités ont été largement prises en charge par les sœurs des ouvriers. La pression sur elles, donc sur les filles des hommes éduqués, serait donc assez légère, quoique désagréable. Mais le prochain devoir qu'elles devront s'imposer est d'une difficulté considérable. Il ne demande pas seulement courage et initiative, il requiert également ce savoir qui appartient en propre à la fille de l'homme éduqué. Il s'agit, pour être brève, de ne pas inciter leurs frères à combattre, ni de les en dissuader, mais d'adopter une attitude de complète indifférence. L'attitude exprimée par ce terme, indifférence, est si complexe et prend ici une telle importance qu'il nous faut en donner une définition plus précise. L'indifférence doit d'abord prendre le pas sur les faits. Il est avéré qu'une fille d'homme éduqué ne peut en aucun cas comprendre quel instinct, quel souci de gloire, quel intérêt, quelle satisfaction profonde le combat lui procure. Sans la guerre, il n'y aurait pas d'exutoire aux nombreuses qualités viriles que le combat exacerbe. Puisque combattre est ainsi l'un des traits caractéristiques du sexe masculin qu'elle ne peut partager. Certains prétendent que c'est la contrepartie de l'instinct maternel que les hommes ne peuvent partager. Aussi s'agit-il d'un instinct qu'elle ne peut juger. L'outsider doit donc le laisser libre de se débrouiller lui-même avec cet instinct, parce que la liberté d'opinion doit être respectée, particulièrement lorsqu'elle est fondée sur un instinct qui lui est rendu si étranger par des siècles de tradition et d'éducation. C'est une distinction fondamentale et instinctive sur laquelle la notion d'indifférence doit être établie. L'outsider prendra cependant soin de ne pas fonder son indifférence sur l'instinct, mais sur la raison. Lorsque son frère dit « L'histoire prouve qu'il l'a dit et qu'il peut le redire. Je combats pour défendre notre pays. Dans le but d'éveiller en elle une émotion patriotique, elle se demandera « Que signifie pour moi, outsider, notre pays ?» Pour trancher cette question, elle analysera la signification du patriotisme de son propre point de vue. Elle s'informera de la position adoptée par les représentantes de son sexe et de sa classe. Elle s'informera sur la quantité de terres, de biens, de patrimoine que les représentantes de son propre sexe et de sa propre classe possèdent actuellement. Combien de l'Angleterre lui appartient ? À partir des mêmes sources, elle s'informera de l'étendue de la protection légale que la loi lui a accordée par le passé et qu'elle lui accorde aujourd'hui. Et s'il ajoute qu'il se bat pour défendre son corps à elle, elle réfléchira au degré de protection dont elle bénéficie par ces temps-ci, par le biais des mots « consigne » en cas de raid aérien écrit sur les murs blancs. Et s'il dit qu'il combat pour protéger l'Angleterre d'une invasion étrangère, elle pensera que pour elle, il n'y a pas d'étranger. Car selon la loi, elle devient étrangère sitôt qu'elle épouse un étranger. Et elle fera au mieux pour certifier ses dires, non par fraternité forcée, mais par sympathie humaine. Tous ces éléments convaincront sa raison, pour la mettre dans une coquille de noix, du fait que les représentantes de son sexe et de sa classe n'ont pas à beaucoup remercier l'Angleterre en ce qui concerne le passé, et pas davantage à la remercier en ce qui concerne le présent. Quant à la garantie de la sécurité pour sa personne dans le futur, nous pouvons largement en douter. Mais elle pourrait avoir accepté. Peut-être le gouvernement en est-il la source. L'idée romantique selon laquelle les hommes anglais, ses pères et ses grands-pères qu'elle voit défiler dans l'histoire, sont supérieurs aux hommes des autres pays. La tâche lui reviendra alors de comparer les récits des historiens français avec ceux des Anglais, ceux des Allemands avec ceux des Français, les témoignages des dominés, ceux des Indiens ou des Irlandais, par exemple, avec les déclarations faites par les dominants. Quelque émotion patriotique, quelque croyance enracinée en la supériorité de son propre pays sur les autres pourrait alors encore exister. Puis elle comparera la peinture anglaise et la peinture française, la musique anglaise et la musique allemande, la littérature anglaise et la littérature grecque, car les traductions abondent. Une fois toutes ces comparaisons fidèlement faites grâce à l'usage de la raison, l'outsider se trouvera en possession de très bonnes raisons pour être indifférente. Elle découvrira qu'elle n'a aucune bonne raison de demander à son frère de se battre en son nom pour protéger notre pays. « Notre pays, dira-t-elle, m'a traité en esclave durant la plus grande partie de son histoire. Il m'a refusé le droit à l'éducation ou le partage de son patrimoine. Notre pays cesse, aussitôt que je me marie, d'être le mien. » Notre pays me refuse les moyens de me protéger moi-même et me force à payer très cher chaque année d'autres personnes qui sont si peu capables de me protéger que des consignes en cas de raid aérien sont inscrites sur les murs. Cependant, si vous insistez pour vous battre afin de me protéger ou pour notre pays, il faudra que vous compreniez sobrement, rationnellement, que vous vous battez pour gratifier un instinct qui appartient à votre sexe et que nous ne pouvons partager. Pour obtenir des avantages que nous n'avons jamais partagés et que nous ne partagerons peut-être jamais. Mais sachez que vous ne vous battez pas pour gratifier mes instincts, pour me protéger moi ou mon pays. Puisque, dira l'outsider, en tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne veux d'aucun pays. En tant que femme, le monde entier est mon pays. Et si, une fois que la raison a parlé, il demeure encore quelque émotion obstinée, quelque amour de l'Angleterre déposé dans les oreilles d'une enfant par les babilleries des corneilles dans les ormes, par le bruit des vagues s'échouant sur la plage, ou par des voix anglaises murmurant des berceuses, cette goutte de pure émotion, bien qu'irrationnelle, servira à l'outsider pour donner d'abord à l'Angleterre ce qu'elle souhaite de paix et de liberté pour le monde entier. Telle sera donc la nature de son indifférence. Et certaines actions doivent résulter de cette indifférence. Elle s'engagera à ne prendre aucune part dans aucune manifestation patriotique, à ne donner son consentement à aucune forme d'autocongratulation nationale, à ne jamais appartenir à aucune clique qui encourage la guerre, à se tenir à l'écart des démonstrations militaires, des tournois, des consécrations, des remises de prix et de toutes ces cérémonies qui encouragent le désir d'imposer notre civilisation ou notre domination aux autres peuples. De plus, la psychologie de la vie privée justifie la croyance que l'utilisation de l'indifférence des filles d'hommes éduqués aiderait matériellement à empêcher la guerre. Car la psychologie montre qu'il est bien plus difficile pour les êtres humains d'agir quand d'autres personnes sont indifférentes et leur accordent une complète liberté d'action lorsque leurs actions se trouvent au centre d'émotions intenses. Le petit garçon se pavane et trompette à la fenêtre. Suppliez-le d'arrêter, il continue. ne dites rien, il s'arrête. Les filles d'hommes éduqués ne devraient alors donner à leurs frères ni la plume blanche de la lâcheté, ni la plume rouge du courage, ni aucune autre plume. Lorsqu'on parle de guerre, elles devraient fermer leurs yeux brillants que la pluie influence ou laisser leur regard se perdre au loin. C'est le devoir auquel les outsiders devront s'entraîner en temps de paix avant que la crainte de la mort, inévitablement, ne rende la raison impuissante. Voilà, donc on est toujours dans La fille à la fenêtre. On a fini de lire Virginia Woolf pour aujourd'hui et on va encore dire deux petites choses. Donc elle parle de ces histoires de plumes blanches. C'est une référence à la Première Guerre mondiale lorsque des bourgeoises anglaises ont été données des plumes blanches aux soldats pour les encourager lorsqu'ils partaient faire la guerre. Elle enjoint toutes les femmes à ne donner aucune plume blanche et à ne pas encourager les hommes à partir dans une guerre insensée une fois de plus. Et ensuite, elle dit que en tant qu'outsider, je n'ai pas de pays. Et en fait, derrière ce mot d'outsider qui veut dire marginal, les personnes mises en marge, les personnes mises à l'écart, il y a non seulement les femmes, mais il y a plein d'autres gens. On pourrait dire qu'il y a les prolétaires, qu'il y a les personnes dites racisées, les personnes qui ne sont pas blanches et donc qui sont mises au rebut de la société. Et qu'en fait, toute cette histoire de guerre n'est qu'une histoire d'hommes blancs privilégiés, riches, et que cela ne nous concerne absolument pas. Bon, après, effectivement, le problème, comme elle le dit, c'est que là, elle a écrit en 1938, elle dit, sa dernière phrase, c'est « à moins qu'on arrive à un moment où on n'a plus la raison pour penser parce qu'on a peur ». Effectivement, c'est ce qui va lui arriver ensuite, quand, en fait, quand elle va se retrouver directement sous les bombardements, qu'elle s'est réfugiée à la campagne et que sa maison de Londres a été entièrement détruite par les bombes. Bon, effectivement, là, comme on le disait au début, elle se réjouit qu'il existe un système de défense anti-aérien et on va absolument pas la juger pour ça, au contraire. Donc effectivement, quand on est directement sous les bombes, c'est difficile de se positionner. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que si il y a des attentats sur notre sol, les personnes à incriminer directement aussi, ce sont nos gouvernements. Et en tout cas, il faut sûrement pas aller dans leur sens de surenchère guerrière en disant « plus on va se faire attaquer, plus on va les attaquer, nous ». Parce qu'en fait, c'est nous qui avons commencé cette guerre. Voilà. Donc, c'est la fin de cette émission. Je voudrais vous donner des petits rendez-vous. Donc, ce dimanche à Saint-Girons, il y a les folles rencontres féministes qui se trouvent à la salle de la mairie à partir de 14h. C'est un événement ouvert à tout le monde et l'entrée est gratuite et il y aura des discussions, des concerts, des ateliers autour du féminisme et venez donc nombreuses et nombreux. Et ensuite des rendez-vous radiophoniques, donc le vendredi soir dorénavant sur la radio La Locale à Saint-Girons, on essaye de faire des émissions faites par des meufs, des femmes autour du féminisme et pas que. Et donc vendredi prochain, le 1er avril, on va avoir une émission sur le punk féminin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le 8 avril, il y aura le deuxième épisode de l'émission Ta voisine est féministe, qui est la nouvelle émission féministe de La Locale. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas assommé avec Virginia Woolf. Mais en tout cas, retenez bien cette phrase. En tant qu'outsider, je n'ai pas de pays. Et donc, je refuserai toute manifestation patriotique. Voilà. Pour terminer, on va écouter une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Les années qui cognent ». Donc, moi, je veux envoyer cette petite pensée à toutes mes amies et tous mes amis qui m'ont soutenue, notamment pour faire cette émission, et à toutes les personnes autour de moi qui traversent des temps difficiles pour plein de raisons, qu'elles soient personnelles ou politiques ou quoi que ce soit. Et donc, écoutons ensemble cette chanson « Les années qui cognent » qui nous donne un peu de force et de courage pour traverser toutes ces périodes un peu difficiles. Donc on se retrouve le 4e vendredi d'avril pour La fille à la fenêtre et cette fois-ci on partira au début du 19e siècle pour parler de Jane Austen qui est aussi une copine et une voisine même si elle paraît un peu loin de nous aujourd'hui.
Il y a des années qui cognent qui dégage le chemin, où on en reçoit plein la trogne, où on se sent plus orphelin. Il y a des années si grises qu'on ne sait plus où se cacher. Les copains ont fait la valise sans qu'on ait pu les empêcher. Quand de parler, on sera ivre. Quand on aura même pleuré, on ne pensera plus à les suivre. Mais on ne sera pas consolé, faudra continuer à vivre. Il y a des années voraces qui nous dévorent dans la main. Fonfon, Jeannot, Luce et j'en passe, et je ne parle que des miens. Pour mieux conjurer la colère, on se rapproche, on se tient chaud. On sent qu'un danger se resserre, on en plaisante, on chante faux. Quand de parler on sera ivre, quand on aura même pleuré, on ne pensera plus à les suivre, mais on ne sera pas consolé, faudra continuer à vivre. Il y a des années mauvaises et qui ne tournent pas très rond, qui nous font dire des fadaises, qui nous font pleurer pour de bon, mais nous donnent envie de nous battre et de tenir et de flamber, de gravir enfin 4 à 4 l'escalier qui reste à grimper. Quand de parler on sera ivre, quand on aura même pleuré, on ne pensera plus à les suivre, mais on ne sera pas consolé, faudra continuer à vivre, faudra continuer à vivre.